Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et la ligne droite, c'est avec David Engels. Bonjour David.
Bonjour Richard.
Alors, vous avez voulu revenir sur la consacration solennelle de la basilique de la Sagrada Familia, la Sainte Famille à Barcelone. Alors, une inauguration qui a suscité un enthousiasme quasi général, médiatiquement au moins. Après un siècle et demi de travaux, l'œuvre inachevée d'Antonio Gaudi, mort il y a 100 ans, avait enfin sa conclusion. C'est devenu une cathédrale destinée à incarner dans la pierre une vision du monde à la fois très originale et profondément chrétienne. Qu'en pensez-vous ?
Oui, alors ce spectacle était naturellement très impressionnant. Les tours monumentales dominant Barcelone, les jeux de lumière traversant les nouveaux vitraux, les processions, les chants, les délégations officielles, la présence du Saint-Père, tout contribuait en effet à donner à l'événement une dimension spectaculaire, grandiose et en même temps presque hors du temps. Et c'est vrai que dans une Europe qui peine souvent à construire autre chose que des moches centres commerciaux, des immeubles de bureaux pour bureaucrates bruxellois ou des infrastructures techniques pour abriter encore plus d'ordinateurs faisant tourner l'intelligence artificielle, voir s'achever une vraie basilique destinée explicitement à la gloire de Dieu et dont l'histoire remonte en plus à la fin du XIXe siècle, possède quelque chose d'incontestablement émouvant. Et pourtant, presque immédiatement, la polémique a repris ses droits. Alors d'un côté, les médias centristes ont célébré l'événement avec l'enthousiasme bien rodé usuellement réservé au mariage de princesse ou aux funérailles de président. La Sagrada Familia devenait le symbole d'une Europe vivante et dynamique, capable de réinterpréter le christianisme de manière originale et moderniste, et la démonstration qu'il existait encore des projets collectifs capables de dépasser l'horizon du court terme. Et bien évidemment, l'on a souligné à souhait les différends qui opposaient le Saint-Père à Donald Trump. La plupart des conservateurs modérés se sont joints à cette célébration avec une satisfaction visible et les mèmes habituels avec des textes comme « We are so back » ou alors « Deus vult » ont refait un énième tour des réseaux en même temps que des citations plus ou moins authentiques de Gaudi, des éloges du génie chrétien européen et des appels à défendre notre identité civilisationnelle. Alors, loin de moi de ne pas apprécier cet enthousiasme, mais le problème est que nombre de ces admirateurs occasionnels se bornent à quelques élans de militantisme virtuel et ne manifestent généralement aucun intérêt particulier pour la vie religieuse elle-même. Beaucoup ne fréquentent jamais l'église, ne participent à la liturgie, ne connaissent que très superficiellement le contenu de leur foi chrétienne tant vantée. Ce qu'ils célèbrent est souvent moins que le christianisme, que sa dimension patrimoniale, esthétique, patriotique ou identitaire. La Sagrada Familia devient alors pour eux une sorte de parc d'attractions spirituelles, spectaculaire, photogénique, rassurant, mais largement déconnecté des exigences intérieures de leur propre religion. Face à eux, la réaction des milieux traditionnalistes fut presque aussi prévisible. Pour beaucoup, la basilique demeure un monument douteux, trop proche du symbolisme organique du panthéisme ou même de certaines formes d'esthétique contemporaine et de toute manière excessivement moderniste dans sa réalisation concrète, en effet assez simplifiée, voire brutaliste, des dessins originels de Gaudi. D'autres ont dénoncé le caractère touristique du lieu, l'omniprésence des camarades, l'instrumentalisation du catholicisme par un indépendantisme catalan essentiellement de gauche, etc. Certains sont même parvenus à trouver matière à critiquer dans la cérémonie elle-même, dans les choix liturgiques et évidemment dans l'attitude du pape. Paradoxalement, donc, le résultat est toujours le même. Les uns applaudissent sans recul, les autres condamnent sans indulgence, mais tout le monde se limite finalement aux extériorités.
Alors, tout le monde se limite aux extériorités, cette opposition n'a rien de nouveau. Comme vous me le signaliez, lors de la réouverture de Notre-Dame de Paris après l'incendie de 2019, on retrouvait exactement les mêmes lignes de fracture. Les uns voyaient dans l'événement la preuve d'un vrai réveil spirituel français, tandis que les autres dénonçaient une mise en scène médiatique destinée à masquer la déchristianisation réelle du pays et même une rénovation proche de l'iconoclasme. Les mêmes arguments que dans le cas de la Sagrada Familia, en fait, sont revenus mot pour mot.
Tout à fait. Et on pourrait dire que l'histoire chrétienne est jalonnée de controverses comparables, du moins durant ces derniers siècles. Par exemple, si nous pensons à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, elle représentait pour les uns un acte de réparation spirituelle après les drames du XIXe siècle, alors que pour les autres, elle n'était qu'un monument réactionnaire destiné à humilier les héritiers de la commune, le tout dans un style indéfinissable et plutôt néo-hindouiste que véritablement byzantin. De manière similaire, lorsque la cathédrale de Cologne fut enfin achevée en 1880, après plus de 6 siècles de travaux intermittents, l'événement suscita un enthousiasme aussi immense que clivé dans toute l'Allemagne. L'empereur Guillaume Ier y vit le symbole de l'unité nationale réalisée il y a à peine 10 ans, et les romantiques allemands célébraient le génie médiéval germanique et gothique enfin ressuscité. Pourtant, bon nombre de catholiques rhénans, surtout en Rhénanie, donc, observaient cette célébration avec une profonde méfiance. Pour eux, l'achèvement de la cathédrale servait davantage le projet nationaliste prussien que l'Église elle-même. Une inquiétude qui, d'ailleurs, dans le contexte du Kulturkampf lancé par Bismarck contre le catholicisme allemand, n'était pas entièrement infondée. Même le style du bâtiment, aujourd'hui célébrissime, fut contesté car le gigantisme néo-gothique paraissait anachronique et artificielle à plus d'un. Même la basilique Saint-Pierre de Rome n'échappa pas à ce genre de critiques. Les sommes considérables nécessaires à son financement, ainsi qu'à la réalisation de son faste convenant plutôt à un palais royal ou à des thermes romains qu'à une maison de Dieu, furent partiellement financées par la diffusion d'indulgences assez outrancières qui provoquèrent entre autres la révolte de Luther. À bien des égards, la plus grande église de la chrétienté se trouve donc elle aussi au cœur d'une polémique qui transforma durablement l'histoire religieuse européenne.
Mais alors, pourquoi cette incapacité presque chronique à accueillir sereinement les grandes réalisations chrétiennes?
La réponse habituelle consiste évidemment à accuser Vatican II, ou alors la modernité, ou la sécularisation, et c'est vrai que tous ces facteurs jouent un rôle non négligeable, mais ils n'expliquent pas tout, car le problème est probablement à la fois plus ancien et aussi plus profond, en tout cas de mon point de vue. Ainsi, depuis au moins un demi-millénaire, la religion chrétienne tend progressivement à déplacer son centre de gravité de l'intériorité vers l'extériorité. Les débats porte de plus en plus sur les formes visibles, comme l'architecture, la liturgie, le politique, l'identité collective, les rapports de force, les symboles culturels, alors que le cœur spirituel du vécu immédiat de la transcendance par la prière, la méditation ou la vision mystique devient progressivement secondaire, voire se trouve affublé du qualificatif d'hérésie. Or, ce phénomène touche aussi bien les progressistes que les traditionalistes. Les premiers réduisent souvent le christianisme à un programme moral, social, humanitaire ou même climatique, et qualifient donc la recherche intérieure de la divinité comme un genre de formalisme opposé à la prétendue vraie quête, c'est-à-dire celle de justice sociale. Les seconds, face au rejet de la forme au profit d'un émotionnalisme purement immanent ou immanentiste, tendent au contraire de défendre la forme en réduisant la foi à un ensemble de rites, de vêtements, de règles ou de références historiques. Dans les deux cas, la dimension mystique, contemplative et intérieure, qui constituait autrefois le centre même du projet chrétien, tend à s'effacer si elle n'est pas activement combattue par les deux autres extrêmes, car jugée trop individuelle, personnelle et indépendante à la fois par le réductionnisme rituel et le réductionnisme social. Autrement dit, les deux camps se battent souvent pour des objectifs ou des objets différents, mais restent prisonniers de la même logique, celle d'une religion devenue principalement visible, sociale et culturelle. Gaudi lui-même aurait probablement été surpris par cette évolution déjà, car son projet n'était nullement de construire un objet touristique ou identitaire, mais à conduire l'âme vers la contemplation, telle que lui en tout cas l'entrevoyait. Les colonnes arbres, les jeux de lumière, les proportions, les symboles bibliques n'étaient pas conçus pour impressionner le visiteur, mais pour le transformer intérieurement. Et ce n'est pas un hasard si lui, Gaudi, libéral et nationaliste à ses débuts, s'est transformé peu à peu en véritable ermite obsédé uniquement par la glorification esthétique de Dieu. C'est précisément aussi ce qui rend la situation actuelle si paradoxale. Des millions de personnes admirent aujourd'hui la Sagrada Familia, tout comme les autres grands et petits témoignages architecturaux du christianisme, alors même qu'elles ne partagent plus nécessairement la vision spirituelle qui les a jadis rendues possibles.
Alors, pour conclure, est-ce qu'il faut sombrer dans le pessimisme?
Beaucoup de contemporains le pensent en effet, car une civilisation qui a perdu le sens du sacré ne le retrouverait jamais. Une fois la pâte dentifrice sortie du tube, il serait impossible de l'y remettre, si vous me permettez cette analogie un peu légère. Pourtant, une vision transcendantale de l'humain suggère davantage d'optimisme, du moins en ce qui concerne l'individu, car les besoins spirituels qui ont produit les cathédrales gothiques, les pèlerinages médiévaux ou les grandes œuvres mystiques n'ont pas disparu et ne peuvent pas disparaître du cœur humain, mais cherchent encore et toujours leur expression, bien que notre époque fasse tout pour les en empêcher ou pour dévier ce besoin spirituel vers son exact contraire. La véritable question est donc moins anthropologique qu'institutionnelle. Les nouvelles générations sauront-elles redécouvrir le cœur spirituel du christianisme sous les couches accumulées de querelles culturelles, politiques et identitaires, comme le suggère déjà maintenant le renouveau du catholicisme traditionaliste en France, ou ce phénomène restera-t-il réduit à une petite élite, alors que les autres iront chercher ailleurs ce que les églises ne parviennent plus à transmettre. La consécration de la Sagrada Familia ne répond évidemment pas à cette question, mais là, au moins le mérite de la poser, car derrière les applaudissements parfois naïfs des uns et les critiques systématiques des autres, nous voyons quand même apparaître une réalité beaucoup plus profonde, c'est-à-dire que des millions d'hommes et de femmes continuent à éprouver quelque chose lorsqu'ils lèvent les yeux vers ces tours qui s'élancent vers le ciel, même si leur conditionnement les empêche bien souvent d'aller véritablement au bout de cet élan.
Merci beaucoup David Engels pour cette méditation inspirée sur le signe de la Sagrada Familia et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.
Ligne droite, l'analyse.
Et pour cette analyse, nous allons retrouver Régis Le Sommier qui, avec un peu de malchance, vient de perdre ce qui lui a permis pendant 4 mois de nous parler chaque semaine de l'Iran.
Je ne suis pas d'accord, Richard, parce que je pense que ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini. Alors là, j'ai le texte, hein, l'encre est à peine sèche.
Pas parfait,
j'ai le texte de l'accord. Non, d'abord, on ne sait pas tout, il y a encore des... Et puis, l'accord, en fait, c'est un accord qui ouvre... Un accord, c'est-à-dire en fait qui ouvre des discussions, qui alors il y a des choses concrètes hein, qui sont, mais bien sûr on est, ça tient à rien là pour le moment. Mais il semble quand même que de part et d'autre, là pour la première fois, on ait déclaré justement que accord il y avait. Alors ce qui est intéressant, c'est que depuis quelque temps déjà, cette guerre c'était comme si plus personne n'en voulait. Elle avait quelque chose de maudit pour tous les protagonistes d'ailleurs, même pour l'Iran d'ailleurs, qui en ressort vainqueur, on dira, entre guillemets, mais en dépit du contrôle exercé sur le détroit d'Ormuz, l'Iran a montré qu'il avait des cartes énormes et qui pouvait peser sur l'économie mondiale, c'est pas exactement le grand retour dans le concert des nations, même si, ironie de l'histoire, l'Iran... sous contrôle désormais des plus durs des gardiens de la révolution, au point qu'il ne faut plus dire régime des mollahs, mais plutôt régime des gardiens, se retrouve dans une position où il peut peser sur les destinées de la région, ce qui tranche radicalement par rapport à là où était l'Iran avant le conflit. Alors pour Donald Trump, parce que le président américain était coincé, il ne pouvait pas mettre un terme au conflit qu'il a démarré, tout du long et assez rapidement, après le début de la guerre, surtout lorsque l'Iran a fait fermer Hormuz, il est apparu clair que les buts de guerre américains seraient très difficiles à atteindre. Ils étaient au nombre de 3, mettre la main sur le nucléaire et le balistique, mettre un terme au régime et contenir les proxys de l'Iran. Et rien de tout cela ne s'est produit et Trump, évidemment, s'en mord les doigts. On le voit bien, on va dire, l'espèce de boulimie, de paroles, de d'éruptions, etc., nous a bien montré qu'en fait, Trump s'était parfaitement rendu compte de l'erreur qu'il avait faite en déclenchant cette guerre. Le troisième protagoniste pour laquelle cette guerre est vraiment maudite, c'est Benjamin Netanyahou, parce que les grandes espérances qu'avait fait naître l'entrée en guerre contre l'Iran des États-Unis côte à côte avec Israël ne se sont pas soldés par la chute du régime iranien. C'est ce dont Benjamin Netanyahou rêvait depuis qu'il est premier ministre israélien. C'est-à-dire, c'est le premier ministre qui a la plus grande longévité et il espérait. Vous savez, quand Trump a déclenché cette guerre, on a posé la question aux États-Unis, aux anciens présidents et notamment Barack Obama, Clinton, se sont exprimés et ont expliqué que Benjamin Netanyahou était venu vers eux avec un plan à peu près similaire à celui qu'il a vendu à Trump et que eux avaient dit non. Et donc, parce que voilà, ils étaient conscients, donc ils s'en ont profité pour se refaire un peu, on va dire, la cerise sur le dos de Trump. Ils ont dit, ben voilà, il y a un président qui a accepté, c'est Donald Trump. Mais donc, Netanyahou, lui, perd beaucoup dans cette histoire. Donc, pas de chute du régime iranien. Dans le même temps, ça, c'est vraiment très, très important. La popularité d'Israël aux États-Unis a baissé significativement. Et surtout, la relation spéciale entre les USA et leurs alliés au Moyen-Orient connaît un passage très difficile. Netanyahou en ressort dans un certain isolement. Sa cote de popularité a commencé à s'effriter à domicile, ce qui n'augure rien de bon pour les élections qui auront lieu à l'automne. Alors, ce qui est intéressant par rapport à... vous me dites, je vais changer de sujet la prochaine fois... Mais vous avez quand même noté que cette guerre est repartie de plus belle cette semaine. Hein. Sur décision de Trump, jeudi, mercredi, on a eu missile Tomahawk contre missile balistique et drone. Et en fait, le problème, c'est qu'elle pourrait aussi repartir à tout instant, ce que les Iraniens voudraient éviter, ils l'ont dit. Mais même si un accord est signé dans les heures ou dans les jours qui viennent. Donc, Américains et Iraniens se sont attaqués cette semaine. Il n'y a pas eu vraiment de bilan, chacun y est allé de son discours martial, à peine les premières frappes de missiles lancées, Trump promettait de frapper encore très fort jeudi soir, l'Iran a considéré à ce moment-là que le cessez-le-feu était quasiment caduque. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce que disait Donald Trump déjà à l'époque, on sentait quand même que la négociation continuait en sous-main malgré la reprise de la guerre. On a pu noter dès jeudi soir qu'il n'y avait plus chez Trump, et c'est une nouveauté, l'obsession sur le nucléaire iranien. Et pour cause, on va le voir. En revanche, il a raconté avoir saisi quantité de pétrole avec son blocus, impossible à vérifier. Il a menacé de prendre l'île de Karg, le principal terminal pétrolier iranien, comme l'a-t-il dit, nous avions saisi le pétrole vénézuélien. C'est bien toute l'histoire de ce conflit, c'est que dans l'impasse évidente dans laquelle le président américain s'est trouvé, Donald Trump a toujours rappelé sa gloire passée ou celle de ses troupes d'élite qui enlevèrent Nicolas Maduro et firent basculer le Venezuela dans le camp américain. C'est vraiment de cela qu'il rêvait à plus large échelle en Iran. Et dans une interview jeudi soir à Fox News, très intéressante, Trump a avoué qu'il ne savait pas si ça marcherait de saisir le pétrole, et notamment l'île de Karg. Et plus exactement, il a dit « Je ne sais pas si les Américains ont de l'appétit pour ce genre d'opération ». Il dit « Je ne sais pas ». En fait, non, les Américains n'ont pas d'appétit pour ce genre d'opération. Il a fait toute sa campagne là-dessus. Tout le problème est là. Trump était bien conscient que cette guerre était impopulaire. Dans le même temps, il savait que pour la gagner, il fallait qu'il exerce qu'il casse la baraque du côté du terminal pétrolier et des îles du Golfe Persique. Mais pour ça, il fallait passer par la case troupes au sol. Il s'y est toujours refusé. Après l'Afghanistan et l'Irak, les Américains ne veulent plus de ça. Une opération éclair serait idéale, mais Donald Trump a bien pris conscience qu'il ne pouvait pas garantir son succès. Donc il a continué, je vais dire, à se payer de mots. Alors très rapidement, vendredi, ce qui est intéressant, donc Donald Trump est revenu, comme il l'a fait 39 fois depuis le début du conflit, à la phase deal. Le deal est imminent. Ce qu'on sait, c'est que Donald Trump, en fait, aurait aimé pouvoir partir, quitter le terrain et dire c'est bon, c'est terminé, etc. D'ailleurs, ce que lui recommandait sans cesse à coups de tweets, Joe Kent, vous vous souvenez de Joe Kent qui avait démissionné au début du conflit, le chef du contre-terrorisme, qui disait à Donald Trump partez, tout, laissez tout, les Iraniens, le Détroit et les Israéliens. Et on a vu que Donald Trump a menacé Bibi Netanyahou de le laisser seul face à l'Iran, dans un accès de colère qu'il a eu contre le Premier ministre israélien, parce qu'on va y revenir, c'est vraiment...
De colère qu'il a confirmé lui-même.
Tout à fait, et qui s'est poursuivi et qui n'est pas peut-être fini aussi. Le président sait très bien qu'il a été attiré dans cette guerre par Pete Hegseth et Marco Rubio, les deux faucons de son administration, pas évidemment Netanyahou. Ce qui est très intéressant, c'est que j'encourage nos spectateurs à aller écouter ce que dit Tucker Carlson sur son analyse. Il dit que Trump n'a jamais cru en cette guerre, mais qu'il a été mis devant le fait accompli, qu'il n'a pas pu faire en sorte de ne pas la faire. Or, dès le début, il savait que c'était une erreur. C'est ce que dit Carlson. Carlson lui trouve des circonstances atténuantes en disant que c'est d'autres forces, peut-être un retour ou en tout cas une qui montre la solidité de l'État profond, qui ont encourager Trump à poursuivre cette guerre. Le reste de son administration, d'ailleurs, on s'en souvient, hein, était dubitatif dès le départ. J.D. Vance, Tulsi Gabbard, qui elle aussi a rendu son tablier. J.D. Vance a fait quand même des prestations assez médiocres, on ne l'a pas vu beaucoup. Il n'a pas su prendre peut-être un moment historique qui aurait été de rattraper le coup. Bon, il était peut-être, on avait placé des espérances sur J.D. Vance qui finalement ne se sont pas réalisées. Alors, intéressant, jeudi 11, c'est là où le déblocage commence, 19h heure française. L'humeur est plutôt morose à Washington. Et là, nouveau coup de théâtre, combien on en a eu depuis le 28 février de ces coups de théâtre, où Donald Trump annonce sur son réseau Truth Social, sur la base du fait que les discussions avec la République islamique d'Iran ont été portées au plus haut niveau de la direction iranienne et approuvées, j'ai, en tant que président des États-Unis d'Amérique, annulé les frappes et bombardements prévus contre l'Iran ce soir. Les discussions et les points finaux ont été tant sur le plan conceptuel que dans les moindres détails, approuvés par toutes les parties. Et là, il cite, y compris les États-Unis, Israël, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, la Turquie, le Pakistan, Bahreïn, le Koweït, la Jordanie, l'Égypte et d'autres. Le blocus naval restera pleinement en vigueur et effectif jusqu'à ce que cette transaction soit finalisée. L'heure et le lieu de la signature seront annoncés sous peu. Ça, il annonce ça jeudi soir, hein, sur Truth Social. Alors la plupart des observateurs, quand ils voient ça, qui ont pris pour habitude de commenter les poussées de fièvre numériques de Trump avec distance, voire de les ignorer. Pourtant, on sent quand même dans ce message une structure différente des précédents. Surtout, il cite toutes les parties impliquées dans la négociation, plutôt dans le projet de négociation, devrait-on dire. On pourrait presque y croire, même si rien ne filtre au départ. Le brouillard de la guerre reste épais. Les Iraniens répondent immédiatement qu'il n'existe pas en l'état de documents d'aucune sorte produits par les Américains qui ont été approuvés par les Iraniens. Bon, c'est partiellement vrai, partiellement faux. On croit revivre ce qu'on a vécu de nombreuses fois depuis le cessez-le-feu. Un Trump qui a la fâcheuse habitude de devancer ce qui est en train d'être négocié et de parler à tort et à travers à n'importe quel micro qui se retrouve sur sa route. Côté israélien aussi, on affirme ne pas avoir connaissance d'un accord et être surpris de ce qu'avance Trump sur un plan conceptuel approuvé par toutes les parties. C'est important de souligner tout à coup déjà les Israéliens qui se mettent de côté parce que leur objectif évidemment c'est de continuer la guerre contre le Hezbollah et de ne pas avoir le Hezbollah impliqué et en tout cas le Liban impliqué dans un accord de paix. Or, c'est une des conditions essentielles de l'Iran. Là-dessus, c'est encore très très flou. Hein. Alors, on sait néanmoins que même si Trump a tendance à prendre ses désirs pour des réalités, il y a eu des progrès significatifs. On l'apprend progressivement ce week-end autour des mécanismes, par exemple, qui est très important. La question la plus importante pour les Iraniens, c'est le mécanisme de libération des avoirs gelés de l'Iran. Alors, 3 milliards auraient été déjà versés par les Émirats Arabes Unis en échange de la promesse des Iraniens de ne pas riposter à une des attaques israéliennes au Liban. On parle de 12 milliards, et c'est là où le Qatar est intervenu et a eu un rôle fondamental, c'est-à-dire là-dessus, puisque il semblerait que donc là-dessus on ait progressé. En même temps, donc, les arrangements pour la réouverture d'Hormuz, période de cessez-le-feu de 60 jours, et les discussions. Alors par contre, ce qui est très intéressant, c'est que, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que Donald Trump n'insiste plus sur le nucléaire, mais parle plutôt de pétrole, parce qu'il semblerait quand même que les négociations sur le programme nucléaire, elles sont menées, mais c'est un peu très flou. Est-ce qu'elles vont être détachées de l'accord sur Hormuz? Ça, on le verra. Et rappelons aussi une chose, c'est que même si ces discussions sur le nucléaire sont menées, sur ce dernier point, pour parvenir à l'accord de Vienne en 2015, les négociations avaient duré un an et demi. Donc je pense que sur le nucléaire, ça prendra un petit moment. En fait, il se murmure aussi que pour obtenir à tout prix son accord, Donald Trump aurait finalement accepté de lâcher du lest sur le stock d'uranium enrichi que possède Téhéran et qu'il n'exigerait plus qu'il soit envoyé à l'extérieur du pays. Très important parce que c'était une demande formulée d'ailleurs par Mojtaba Khamenei lui-même. Et d'ailleurs, dans les dernières semaines, Donald Trump s'est dit prêt à rencontrer le nouveau guide iranien. Donc voilà, si l'accord est signé, l'Iran risque d'en ressortir, ça sera ma conclusion, riche et plus du tout isolé, enfin en tout cas, on va dire, avec la levée des sanctions. D'ailleurs, les pays européens ont dit qu'ils étaient prêts à lever eux-mêmes les sanctions à l'annonce de l'accord. Donc, de ce point de vue-là, l'Iran est gagnant. Il a montré à ses voisins et au monde de quoi il était capable en matière de destruction. Et les mêmes voisins n'ont d'autre choix que de faire avec lui, de faire équipe avec lui pour le bien de la région, on le comprend. On a envie de dire tout ça pour ça. On ne peut même pas dire que cette guerre aura été une guerre pour rien, puisque pour l'Iran, elle sera reconnue comme une opportunité historique de sortir d'un isolement. Et permettez-moi de terminer sur une réflexion sur la guerre elle-même. L'Iran a livré la première guerre de haute intensité du 21e siècle, privilégiant, grâce à une réflexion ancienne, des outils parfaits de la symétrie que sont les drones et les missiles balistiques, là où les Américains continuent à investir dans le porte-avions, les avions de chasse, etc., etc., comme nous aussi, c'est-à-dire de vivre et de mener, même Israël, quelque part, qui pourtant a la technologie et a aussi pas mal d'avance, on est resté dans une guerre très 20e siècle, alors que l'Iran, lui, a privilégié des armes low cost, fabriquées en nombre et qui ont changé la donne. Donc, d'une certaine façon, l'Iran a montré qu'on avait changé d'époque et que le faible n'avait plus, ne pouvait d'une certaine façon faire plier le fort. L'Ukraine l'a prouvé aussi à sa façon, bien que c'est moins spectaculaire pour l'Ukraine, qui est soutenue par les puissances occidentales, que l'Iran, qui a combattu seul avec ses proxys. Et voilà, la conclusion, c'est que le faible peut tenir tête au fort et que l'Iran est peut-être allé plus loin en répondant du tac au tac, en manœuvrant avec Hormuz de façon magistrale, en plaçant la guerre sur le terrain économique mondial et financier, et en jouant de nos peurs et de notre dépendance aux hydrocarbures. Car ne soyons pas naïfs, c'est bien Hormuz et ses conséquences qui ont fait gagner l'Iran in fine.
Merci beaucoup Régis Le Sommier. Alors, évidemment, on n'a qu'une envie, c'est de vous poser 72 questions. On va commencer par parler d'un grand absent, notamment de toutes les parties impliquées. Trump cite tout le monde sauf l'Europe.
Oui, ça c'est l'abonné absent ou le spectateur. Donc il s'intéresse aux acteurs qui sont sur la scène, mais il ne s'intéresse pas au spectateur qui est là pour entériner, pour applaudir.
Ils ne sont même pas en coulisses en fait.
Non, mais ils sont là quand même, ils font des réunions, vous savez, c'est la vieille habitude maintenant des Européens de faire des coalitions. Ils avaient proposé un peu à la manière des il y avait déjà eu la coalition des volontaires en Ukraine, un truc totalement virtuel qui devait s'appliquer en cas de paix, ou en tout cas de cessez-le-feu en Ukraine. Bon, toujours pas de cessez-le-feu, mais il y a toujours cette coalition des volontaires qui vient épauler, aider l'Ukraine. Et puis là, il y a eu une coalition qui s'est formée autour de Keir Starmer au départ, si ma mémoire est exacte, pour dans le cas de la réouverture du détroit d'Hormuz, où l'Europe se proposait d'accompagner au niveau sécuritaire, le transit des bateaux par le détroit.
Fois que la situation serait redevenue normale, l'Europe serait revenue.
C'est pour ça que je dis, nous sommes aujourd'hui définitivement installés dans ou à la place arrière dans la voiture, ou en tout cas sur les sièges, et on regarde la pièce se faire, pièce sur laquelle on n'est ni l'auteur, ni le réalisateur, ni le metteur en scène. Bref, on n'a que quelques atouts, on pourra dire, qui peuvent être, on va dire, d'aider ou d'épauler éventuellement, et parfois sous la pression américaine d'aider les opérations militaires américaines, même si officiellement on n'en fait pas partie, voilà. Donc en fait tout ce qui est tout ce qui est de l'ordre de l'Europe n'est que mots, et nous, chez nous, on a quand même quelqu'un qui est exceptionnel là-dedans, c'est quand même Jean-Noël Barrot. Je trouve qu'on n'a pas fait mieux comme ministre pour finalement trouver à chaque fois, on va dire, s'attarder sur enfoncer des portes ouvertes et surtout finalement rester désengagé. On a besoin de voilà, et c'est un peu ce que fait Emmanuel Macron aussi depuis quelques temps. Et malheureusement, voilà, on est d'abord ce qui est, je pense qu'on paye le mépris et la volonté que les Américains ont de se désengager de l'Europe. Ils nous font la misère, appelons les choses par leur nom. Alors là, on va assister avec l'ouverture du sommet du G7 à Évian à peut-être un retour en grâce d'Emmanuel Macron. Ça, il sait très bien faire quand il est en plus puissance accueillante. Je pense qu'on va presque imaginer, en l'écoutant parfois, que c'est lui qui a fait le deal. Ça, il est très très fort pour le faire. Il va profiter de la présence de Trump, qui sera sans doute très gentil avec lui, alors qu'en coulisses, les Américains sont en train de vider l'Europe de leur potentiel militaire, c'est-à-dire que les Américains réduisent leur présence, réduisent leur empreinte en Europe. Alors, ça suscite des craintes, parce que l'Europe se retrouve seule face à la Russie en Ukraine. Très intéressant d'ailleurs, un général, j'ai oublié le nom, pardonnez-moi, mais qui a un nom de quelqu'un d'origine des pays de l'Est, a dit, un haut gradé américain a dit que selon lui, la Russie n'envisageait pas d'attaquer l'Alliance, d'attaquer l'OTAN, ce qui détruit un peu le récit
macronien récit,
voilà, habituel d'une Russie menaçante, du fait qu'il faut préparer nos enfants à l'idée d'être sacrifié, bref, tout ce qu'on a pu entendre pendant l'année qui s'est écoulée à propos de ce conflit.
Alors, l'Europe, effectivement, est en train d'assister impuissante à son éviction. L'Iran, vous l'avez souligné, a en fait obtenu beaucoup plus dans cette guerre qu'elle n'était capable d'en rêver avant que ça ne se déclenche. L'autre grand perdant, ou pas, en fait, c'est Benjamin Netanyahou, car... En même temps qu'on annonçait cet accord de paix avec l'Iran, Israël a maintenu son effort militaire au Liban et d'une manière absolument stupéfiante. Voilà, il a bombardé Beyrouth Sud.
C'est la ligne rouge avec Trump.
Donc Trump parle et Benjamin Netanyahou n'entend rien et très manifestement ne veut pas entendre. On a appris d'ailleurs au passage aussi que sur les terres qui ont été... transformé en glacis militaire, Israël avait décidé d'épandre des pesticides à haute dose, ruinant absolument toute possibilité d'un retour à la normale, en tout cas pour les agriculteurs. Donc, est-ce que Benjamin Netanyahou va accepter cet accord ?
Bah écoutez, de toute façon, on peut arriver dans ce mano à mano entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump à une tension extrême. Je dis, voilà, la relation entre Israël et les États-Unis n'est pas brisée, mais elle est fortement, on va dire, sous pression en raison de la situation au Liban et en raison de la volonté de Netanyahou de poursuivre l'offensive. Maintenant, le vrai problème, c'est là aussi, ce sont les buts de guerre. L'idée de départ est d'éradiquer le Hezbollah. Cette volonté d'éradiquer le Hezbollah, elle s'est déjà manifestée en 2006, s'est déjà manifestée à de nombreuses reprises, provoquant l'intervention d'Israël au Liban Sud, 82, retrait en 2000, etc. C'est toujours un petit peu la même guerre, sauf que là, Israël entend bien conserver les 10 kilomètres de ce qu'on a appelé la ligne jaune, en fait, qui remonte et qui... l'idée étant de faire un glacis, une sorte de no man's land, pour m'être rendu au Liban récemment, j'ai pu... observer avec une certaine distance, mais du village voisin, par exemple la ville de Khiam, le village de Khiam entièrement détruit et une partie de l'armée israélienne présente sur place n'est pas là pour combattre, mais est là pour provoquer ces destructions de façon à ce qu'il n'y ait plus rien de vivant. On ne peut pas se débarrasser du Hezbollah, donc on le repousse au nord. Mais fatalement, le combat continue avec le Hezbollah. Celui-ci s'est révélé extrêmement bon élève de la guerre en Ukraine et a sorti sa palette de drones à très bon marché, qui pose des problèmes parce que ce sont des drones à fibre optique qui peuvent aller très loin et provoquer des problèmes sur l'arrière des troupes israéliennes. On en a déjà parlé ici. Et ça, ça va, c'est, ça ne se termine pas. C'est pas en faisant un glacis que cette histoire de drone va être, on va dire, réglée définitivement. Donc le Hezbollah peut continuer à combattre. Il combat aussi dans une zone qui est sa zone, qui est son berceau. En fait, qui est là où il est né, donc ça lui donne une certaine force et je dirais une certaine connaissance intrinsèque du terrain, ce qui est le cas aussi des Israéliens. Mais vous savez, génération après génération, on apprend, les choses sont différentes. Jusqu'à présent, un des enseignements pour Israël de cette guerre, c'est qu'il faut ces troupes doivent absolument se protéger contre justement l'envoi de drones. Donc de menaces qui arrivent du ciel. Or, jusqu'à présent, l'armée israélienne n'avait jamais de problème. Dès qu'il y avait un bruit dans le ciel, c'était forcément un avion ami qui venait frapper un autre objectif. Donc ça c'est une philosophie qui a dû se mettre en place par l'armée, a dû être mise en place par l'armée israélienne. Et donc, il y a plein de choses qui changent. Du coup, beaucoup de doutes aussi sur la finalité, beaucoup de doutes jusqu'où où veut-on aller. Donald Trump a clairement mis une ligne autour de Beyrouth. Benjamin Netanyahou, par deux fois, a contredit ce que Trump lui avait demandé.
Il a franchi la ligne, très nettement.
On sait que Trump l'a avoué et a continué à dire qu'il était furieux de ça. Le verdict final, c'est quand les États-Unis arrêteront de fournir des armes à Israël ou des munitions. Là, il y aura peut-être effectivement une manière de faire plier l'État hébreu. Pour le moment, Trump ne l'a pas menacé, mais c'était en substance ce qu'avait fait Joe Biden sur certaines bombes au moment de l'opération à Gaza. Donc Trump peut très bien aller jusque-là si Benjamin Netanyahou refuse de rentrer dans le rang. C'est ça, le Benjamin Netanyahou sait qu'il ne peut pas aller trop loin non plus. Donc fatalement, à un moment, je pense que l'opération aussi au Liban s'arrêtera. Mais que l'intérêt des Israéliens, c'est de la faire continuer, parce que sinon, c'est en effet un désaveu total. Benjamin Netanyahou ayant bâti son action politique sur l'idée de détruire la République des Mollahs, de la République islamique d'Iran, et n'y étant pas parvenu.
Alors voilà, on va bien voir si les Iraniens, qui paraissent être en position de force, sont prêts à sacrifier leur avantage pour sauver le Liban, ou au contraire, s'ils vont laisser le Hezbollah à son sort. Trump a salué cet accord avec un vibrant que le pétrole coule à flot, ce qui évidemment est une manière de changer changer d'objectif en cours de route, comme si toutes ces guerres avaient été déclenchées pour libérer le détroit d'Ormuz, qui en fait n'était pas bloqué avant qu'elle ne le soit déclenchée, justement. Ouais. Mais Bertie Bayard, dans un très intéressant article du Figaro, a noté que ce qui sauve en fait Trump, c'est la manière dont les Chinois ont baissé leur consommation de pétrole, et donc en fait, au lieu de faire exploser les prix, des analystes parlaient d'un pétrole à $150 ou même à $200 le baril, comme la Chine a baissé sa consommation, il n'y a pas eu la tension sur les marchés internationaux qui était prévisible et prédite par tout un tas d'experts. Donc est-ce qu'on n'a pas le sentiment aussi que la Chine fait partie des gagnants de cette guerre, puisqu'elle a montré qu'elle était capable, elle, d'avoir une économie résiliente, qu'elle était capable de soutenir l'Iran, enfin, autrement dit, qu'elle était capable de faire pièce dans ce grand jeu mondial de la guerre entre les États-Unis et la Chine, elle était capable de faire pièce aux États-Unis.
Bah, oui, la Chine a montré, pendant ce conflit de 100 jours, elle a montré qu'elle était... moi, j'aimais bien l'expression, elle n'était plus simplement l'empire du milieu, mais elle était aussi le centre du monde. C'est-à-dire qu'on a vu cette visite en grande pompe de Donald Trump à Pékin, suivie par la visite de Vladimir Poutine à peine une semaine après. Les deux rivalisants de symboles, quand Trump arpente les jardins de la cité interdite avec Xi Jinping et qui demande à Xi Jinping... si tous les chefs d'État sont autorisés à venir dans cet endroit, Xi Jinping lui dit non, un très petit nom, et Donald Trump demande à Xi Jinping si Vladimir Poutine est déjà venu, et Xi Jinping lui répond oui, Vladimir Poutine est déjà venu, et j'ai noté moi une semaine plus tard, quand Poutine rend visite à Xi, Il y a un moment, une inauguration d'un portrait des deux hommes, l'un à côté de l'autre. Donc, la symbolique, c'est que la Chine et la Russie sont alliés éternels. Donc, on voit ces deux en train de regarder leur propre portrait, histoire de montrer, voilà, c'est pas Trump qui est sur l'affiche, c'est moi. Donc, il y a une sorte de rivalité autour de la Chine qui est intéressante et qui montre d'ailleurs que Pékin tire les ficelles tant sur la question de l'économie russe, qui est bon, la station essence de la planète, et dont d'ailleurs la Chine bénéficie, et puis sur la question iranienne, sans l'imagerie satellitaire fournie par les Iraniens, par les Chinois et le renseignement russe, sans doute que les Iraniens auraient été moins performants dans leurs tirs, moins performants. Quand je me souviens dans la base américaine en Arabie Saoudite, un avion radar extrêmement extrêmement cher, un AWACS américain a été détruit. Je doute quand même que les Iraniens par eux-mêmes aient pu avoir les coordonnées de l'avion AWACS qui vaut 600 millions de dollars et qui n'existe qu'au nombre de 12 exemplaires dans l'armée américaine. Donc pour détruire un tel équipement, les Iraniens ont bien eu recours à du renseignement russe et à une aide de la part des Chinois. Donc ça, c'est évident, c'est manifeste. Et Pékin donc, a pu tirer les ficelles de cette façon, tout en laissant son allié iranien se débrouiller un peu tout seul. Ça aussi, c'est intéressant parce que l'Iran a résisté plus que ce qu'on attendait.
Et en partie parce que tout le monde avait mésestimé les capacités, les stocks. Oui. Oui. Voilà. Donc, une dernière question, et pardonnez-moi de vous avoir arrêté dans votre développement, Régis. C'est le moment en fait où Trump décide après c'est donc la 40e annonce aura été la bonne, ouais. Voilà, de dire ça y est, tout le monde a gagné et le pétrole coule à flot. Les élections de mi-mandat arrivent à grands pas et on a l'impression qu'une partie de la fébrilité de Donald Trump venait du fait que n'ayant pas gagné rapidement, il fallait qu'il réussisse à se sortir rapidement du bourbier sans perdre la face pour être capable de mener enfin une campagne interne.
Je pense que c'est ça, quand j'ai cité Joe Kent, je m'en réfère à la série de tweets qu'il a fait quasi quotidien par moment, demandant à Trump de laisser l'affaire comme elle est et de retirer les groupes aéronavals, les différents parties de l'armée américaine déployées là-bas, ne serait-ce que pour éviter une escalade en cas où les Iraniens parviendraient à, imaginons... atteindre un porte-avions, voire le couler, ou voir voilà, un succès militaire qui aurait complètement renversé la donne. Donc, Joe Kent, tu disais, arrête de mettre en danger les troupes américaines, retire-les, tu n'as plus rien à faire là-bas, etc. Alors, quand on regarde un peu sur le fait que Donald Trump a apparemment cédé sur pas mal de points, c'est quand même peut-être aussi un peu ce qu'il fait. Maintenant, il y aura quand même, alors, il y a la capacité d'oubli des gens. Parce que Donald Trump, vous savez, Donald Trump est un homme, est un génie médiatique. Donc, il sait qu'il va falloir qu'il efface, un peu comme ce que disait Pasqua, il n'a pas réussi à créer une crise dans la crise, mais il faut qu'il fasse une autre crise ou un autre point de focus, ou un autre moment où il va pouvoir s'exposer. Peut-être que ça sera à l'occasion d'Évian, peut-être, mais pour rebondir et quitter cette séquence qui n'est pas glorieuse du tout, ça, les Américains s'en sont rendus compte avant lui. C'est-à-dire que l'impopularité de la guerre, elle a été de tout temps. Donald Trump n'a pas bénéficié comme Bush avec l'Irak ou avec l'Afghanistan d'une période d'apothéose où le bienfait de l'intervention américaine était partagé par 80% des Américains. Il n'y a jamais eu ça. Ça a toujours été une guerre extrêmement impopulaire et qu'il est devenu de plus en plus, jusqu'à affecter la cote de popularité de Donald Trump lui-même. Donc là, il doit se sortir, donc il faut absolument qu'il trouve une autre séquence. Alors, est-ce que ça sera Cuba, qui est beaucoup plus facile à mener, mais est-ce qu'il va aller jusqu'à faire débarquer des troupes, renverser le régime et refaire un coup à la Maduro? Parce que, en fait, s'il y a eu l'Iran, c'est parce qu'il y a eu Maduro avant. Trump prenant possession des immenses champs pétroliers vénézuéliens, eh bien, ça lui a il s'est vu pousser des ailes et il s'est dit, je vais réaliser le même coup génial en Iran. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu.
Ça n'a pas eu lieu. Voilà. Et souhaitons à Trump tout ce qu'il mérite. La formule est ambiguë. Et merci beaucoup, Régis.
Et une bonne chance à cet accord, parce que c'est quand même mieux qu'il y ait.
Oui, oui. Et souhaitons
guerre,
effectivement, pour les Libanais, pour les pays du Golfe et pour les Iraniens, que les bombes arrêtent de tomber sur tous ces pays.
Et d'ailleurs, si je puis me permettre, Omerta sort son dernier reportage documentaire sur le Liban. Il est disponible sur la plateforme.
Ça y est, aujourd'hui ?
Oui, il est disponible et il s'appelle « Délivre-nous du mal ». Reprendre cette parole du Notre Père, justement. C'est un vibrant hommage aux humanitaires qui, au milieu de toutes ces bombes et au milieu de toute cette pagaille, ce chaos du Liban Sud, continuent à venir en aide, et en particulier les gens d'SOS Chrétiens d'Orient. Voilà.
Délivrez-nous du mal sur la plateforme d'Omerta. Merci beaucoup, Régis Le Sommier.
Merci.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour Gilles Brochard.
Bonjour Richard, bonjour Franck, bonjour chers auditeurs. Alors j'en profite pour dire délivre-nous du mal, c'est pas MALE, hein, c'est pas un slogan de Sandrine Rousseau. Hein.
Non, effectivement. C'est
elle est bonne celle-là pour une fois.
C'est tiré du Notre Père. Alors aujourd'hui s'ouvre à Évian le G7.
Bah oui, à l'hôtel Royal d'Évian, un hôtel que je connais bien, magnifique. Alors un G7 qui, rappelons-le, réunit l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et le Japon. Et l'opinion écrit que pour Emmanuel Macron, l'enjeu n'est pas tant d'obtenir une avancée spectaculaire que de réussir à reproduire l'effet Biarritz. Alors les Biarritz, c'était 2019, montrer que la France peut rassembler des dirigeants aux intérêts divergents et éviter un échec politique. Alors à l'issue du sommet, Emmanuel Macron a convié Donald Trump à Versailles pour un dîner, une belle image pour faire oublier le reste en cas d'échec, et compléter l'album Souvenirs de la présidence. Alors seul le Figaro se fait l'écho ce matin en gros titre de l'accord trouvé hier entre les États-Unis et l'Iran, je n'y reviens pas, en titrant le G7 suspendu à l'accord entre Trump et l'Iran. De son côté, Alison Tassin du Parisien a voulu en savoir plus sur le protocole et a passé la journée de dimanche à suivre l'organisation du sommet au sein de l'hôtel, à commencer par la mise en place des drapeaux, celui de la France au centre. Elisabeth Meyer veille au grain à la tête d'un groupe de 25 diplomates du Quai d'Orsay depuis septembre dernier. Il faut que la forme corresponde à l'intention politique de la réunion, confie-t-elle. Le dîner de ce soir aura lieu sous la pergola, une structure en bois avec le lac Léman et les montagnes en arrière-plan. Une table ronde sonorisée, car si les chefs d'État ne seront qu'entre eux, leurs sherpas, c'est-à-dire leurs conseillers diplomatiques, ne seront pas loin et pourront entendre la teneur de ces premiers échanges de fonds. Donald Trump devrait être assis à gauche d'Emmanuel Macron, et si le menu des discussions tournera autour de l'accord irano-américain et de la guerre en Ukraine, le menu des assiettes lui reflétera la gastronomie française et locale. On ne sait pas si on servira du Coca-Cola à M. Trump. En fait, l'objectif est aussi de faire découvrir les spécialités françaises et... On parle même d'un practice de golf qui sera mis à la disposition du président américain, outre deux salles de travail pour l'ensemble des participants. L'une très grande permet d'avoir les 15 délégations représentant autour de la table, car le président a tenu à inviter, on ne l'a peut-être pas dit, le Kenya, l'Inde, le Brésil, la Corée du Sud et l'Égypte. Voilà, c'est à lire dans Le Parisien et aujourd'hui en France.
Alors, comment va-t-on sécuriser un tel sommet avec les gauchistes qui se livrent à leur jeu favori?
Alors, quelques 5600 femmes et hommes hors force mobile, écrit le Figaro, seront sur le qui-vive. Leur mission, réprimer tout ce qui viendra perturber le bon déroulement du sommet et faire face à toute menace pesant sur les chefs d'État et de gouvernement. Pas moins de 200 gardes du corps, du service de la protection, 300 des mineurs, des équipes spécialisées du RAID seront mobilisées alors que 260 motards veilleront à la bonne circulation des cortèges. Si vous voulez une chambre à l'hôtel Royal, vous ne pourrez pas, hein, Richard, tout est pris. Selon un dernier état des lieux, plus de 2680 agents vont quadriller les rues d'Évian, d'Annemasse et d'Annecy, et la gendarmerie, pour sa part, a mobilisé 6100 militaires, 200 motocyclistes dans le cadre d'un dispositif dans la profondeur du territoire sur 1700 km² s'étalant sur les départements de la Haute-Savoie et de l'Ain. Outre 23 embarcations appelées à sécuriser le lac Léman et 4 escouades à cheval de la garde républicaine. Oui, parce qu'on peut traverser, on arrive à Lausanne et on traverse, et on arrive à Évian, c'est absolument magnifique. Le GIGN donc sera en alerte sur place pour faire place face à une attaque de haute intensité, appuyé par des policiers italiens, allemands, grecs ou encore suisses. Les forces de l'ordre vont bénéficier de l'appui de 60 équipes cynophiles et de télépilotes de drones. Et on pense que même la voiture de Donald Trump, la fameuse voiture blindée, est déjà arrivée.
Voilà, bah c'est génial. Voilà. Toute débauche de moyens pour protéger quelques dirigeants, alors que les Français, eux, sont soumis à une insécurité quotidienne.
Ah, ça.
Depuis ce matin, à l'heure où nous parlons, les 386 000 élèves de terminale planchent sur la philosophie.
Oui, alors 8 heures pétantes, hein, écrit le site 20 minutes, les candidats ont commencé à plancher sur la sacro-sainte épreuve de philosophie qui ouvre chaque année. C'est l'édition 2026, bien sûr. Et le site l'étudiant.fr propose même des corrigés du bac. Même initiative pour le site Figaro étudiant. Alors, j'avais noté les thèmes qu'on attendait, le travail, la technique, l'État, la justice et la liberté, ou le devoir et la vérité. On vient de m'envoyer les trois sujets. Sujet numéro 1, avons-nous la maîtrise de nos paroles ?
Non.
Voilà, ça c'est pour nous ici à Radio Courtoisie. Sujet numéro 2, peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas?
Oui, mais oui, bien sûr.
Oui, oui. Bah, oui,
on
d'accord.
On peut être aussi, et on peut être aussi
malheureux. Des fois même, ça décuple le bonheur.
Et on peut être aussi malheureux quand les autres sont heureux. Et puis, le troisième sujet, c'est un texte de Humain trop humain, de Friedrich Nietzsche, à analyser, et qui commence par « Les méthodes scientifiques sont une conquête de la recherche pour le moins aussi considérable que n'importe quel autre résultat ». C'est en effet sur la compréhension de la méthode que repose l'esprit scientifique.
Oh voilà, c'est
alors,
beau.
On va peut-être dire à notre nouveau stagiaire Combe de réfléchir sur ces sujets, et puis il remettra sa copie à la fin de...
Oh, il est qu'en seconde, on peut lui laisser un an.
Non, il est là pendant 15 jours. Bonjour à Combe, qui va devoir donc faire l'intégralité des épreuves de philosophie d'ici la fin de son stage.
Oui, c'est le bizutage de Richard de Sade. Vous voyez comment ils sont traités ici.
Alors, oui. Aujourd'hui, Marius Borg-Hoiby, donc autrement dit le prince le plus détesté de Norvège, curieux surnom, va connaître le verdict de ses juges.
Alors, je vous conseille vraiment, si vous avez 7 minutes, parce qu'il faut 7 minutes pour lire l'article du Figaro, de lire toute cette affaire qui est assez spectaculaire. Depuis des années, en effet, elle fascine la discrète Norvège, écrit Tanguy Berthemet. Les frasques de Marius Hoiby ont nourri la chronique, les accusations folles et les démentis secs. J'adore cette expression, les démentis secs. Le 3 mars dernier, et pendant 7 semaines, le procès du jeune homme de 29 ans s'est tenu devant un juge d'Oslo. Il a dû répondre d'une longue liste de délits, de crimes et de crimes. 39 chefs d'accusation précisément, dont 4 viols, des violences répétées sur une ex-compagne, des violences routières, du transport de drogue. Bon, j'arrête. Ce catalogue, bien que sidérant, n'aurait pas reçu autant d'attention si l'accusé n'était le fils de la princesse de Norvège, Mette Marit, épouse du prince héritier Haakon. Et Marius n'est certes pas le descendant du prince, il est né d'une première liaison de sa mère, comme quoi faut se méfier, à leur serveuse, avec un financier, et il fait partie de la famille royale où il est entré à l'âge d'un peu moins de 5 ans, quand Mette Marit a épousé Haakon. Alors adolescent, il se fait remarquer pour ses frasques, pour fuir les médias qui l'accablent, il part aux États-Unis, puis au Royaume-Uni, avant de retrouver la Norvège, où le jeune homme blond, aux cheveux gominés, continue sa vie dissolue de figure de la jeunesse dorée. Tout change avec son arrestation en 2024, puis son inculpation, son procès. Les débats vont dessiner un portrait bien plus sombre que celui d'un gosse de riche, un peu rebelle. Il transparaît que le jeune homme est toxicomane, violent, méprisant, dit-on aussi.
Oh mon Dieu.
Alors je vous passe tous les détails, puisqu'il y a la liste, on est une heure de grande écoute le matin. Lui affiche un certain désintérêt, se contentant de dessiner pendant l'audience ou d'affirmer ne pas se souvenir des faits. Il laisse entendre que les jeunes femmes veulent, en l'accusant, lui soutirer de l'argent. « Je ne suis plus Marius, je suis un monstre, l'homme le plus détesté de Norvège », a-t-il fini par craquer. S'il a convaincu d'une chose, c'est sans doute de sa solitude, et le verdict est attendu ce lundi.
Alors, j'ai cru que vous me parliez de Macron au moment où il a dit « Je suis un monstre, l'homme le plus détesté », mais il y avait Norvège derrière, donc du coup, j'ai compris qu'il s'agissait d'autre chose.
Il risque 7 ans de prison, quand même.
Il risque 7 ans de prison.
7 prisons fermes.
Ah, bon, tout ça pour Cadiol et tout le reste, bah, c'est... Ok.
Ouais, y a aussi
heureusement, quand... s'il était jugé en France, il aurait droit sans doute à un bracelet électronique.
Il aurait du sourcil.
Quand on voit la manière dont les juges jugent tous les clients pédophiles des proxénètes et les proxénètes eux-mêmes. On en parlait ce matin avec Sébastien Jalamon. Il nous reste 54 secondes. Qu'avez-vous lu ces derniers temps?
Alors, je l'ai laissé près de chez Franck.
Il est sur la légende.
Voilà, je trouve que c'est un livre étonnant. Très
donc,
bien écrit.
La légende de Boualem Sansal.
La légende de Boualem Sansal. Alors, c'est pas du tout un livre narratif, c'est un livre à la fois de réflexion. C'est le livre d'un anti-soumis. Alors, c'est vrai que Alger en prend pour son grade. Et ce qui est très émouvant, très beau aussi, c'est qu'il raconte ce qu'il a fait en prison auprès des autres détenus et qui lui a valu d'ailleurs ce nom de légende, de respect. C'est une intimité carcérale, si j'ose dire, où il essaye d'apporter son savoir et sa connaissance aux autres détenus. Et y a, je lirai des passages parce que franchement, j'ai trouvé ce livre remarquable dans le sens où il est stylistiquement intéressant et en même temps très profond. Alors moi qui ai étudié beaucoup la notion de prison à travers Solzhenitsyn, Silvio Pellico, Oscar Wilde, enfin toute la cohorte, il s'inscrit dans cette littérature. Et voilà, donc ça s'appelle La Légende chez Grasset.
Merci beaucoup Gilles Brochard et merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est le moment de nous quitter sur YouTube et sur X, mais l'émission continue jusqu'à 10h. Et on ne va pas se quitter sans vous réclamer un peu d'argent. On est 1,5 million à écouter Radio Courtoisie. Je fais partie de ce 1,5 million chaque semaine. Mais on est un peu moins de 20 000 à donner. Je fais partie de ces moins de 20 000. Ce serait pas mal de faire en sorte qu'entre les 20 000 et les 1,5 million, on réduise l'écart.
Absolument, en fait on est payé au chapeau hein, ici à Radio Courtoisie, on passe avec notre chapeau et on demande humblement à des gens de nous aider puisque vous qui nous écoutez êtes les seuls à faire vivre Radio Courtoisie, pas de ressources publicitaires, pas de subventions pour notre radio qui vit grâce à vous depuis 1987. S'il vous plaît, rendez-vous sur soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr pour faire un don dès maintenant. Je vous remercie d'avance.
Merci Franck et tout de suite, on va rediffuser l'entretien passionnant que nous avons eu avec Stanislas Steel ce matin. Objectif remigration, voilà un nouveau mouvement politique en France.
Ligne droite. Debout les Français.
Debout les Français, ce sera avec Stanislas Steel, porte-parole des natifs et militant identitaire. Voilà, on parlait immigration, justement. Vous-même, Stanislas, vous avez l'impression qu'en matière d'immigration, la France n'a pas encore fait tout ce qu'il fallait.
C'est même... déjà, merci beaucoup de me recevoir. Je vais commencer par là. Mais je pense que c'est pas que la France n'a pas fait ce qu'il fallait, c'est que la France n'a rien fait de ce qu'il fallait. On est dans un état de délitement complet sur énormément de sujets dans notre pays. Celui de la sécurité et de l'immigration en fait évidemment partie. On a, depuis en fait, le début du regroupement familial, on fait face à un flot migratoire qui vient essentiellement d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, qui est sans fin, et au fur et à mesure des années, on a des discours, vous venez de le rappeler avec notre cher ancien président Monsieur Sarkozy, on a des discours qui s'enchaînent sur des thématiques sécuritaires, des volontés de changer. On a Bruno Retailleau qui est arrivé au ministère de l'Intérieur. Voilà, on a des événements qui se succèdent et malgré ça, on a malheureusement rien qui change. On a un flux migratoire qui est toujours aussi énorme, des entrées illégales qui sont toujours aussi énormes. Il n'y a aucun contrôle aux frontières, il n'y a pas d'expulsion. Donc la situation est on ne peut plus catastrophique aujourd'hui.
Alors, vous avez décidé de frapper, non pas un grand coup, mais vous avez décidé de continuer à alerter l'opinion, et par exemple, en déployant une banderole sur la basilique de Saint-Denis ces derniers jours.
Oui, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, la politique identitaire était représentée par des groupes activistes, comme les natifs dont je suis le porte-parole, mais il n'y avait pas de structure nationale, de structure qui était capable de faire des opérations à plus grande ampleur. Et donc c'est dans cette optique-là qu'on a lancé un mouvement identitaire national sur toute la France qui s'appelle Objectif Rémigration. Et donc pour l'action de lancement, il y a eu du coup le déploiement de cette banderole sur la basilique de Saint-Denis avec marqué Rémigration. C'est un message assez simple mais qui en même temps est très évocateur et qui était dans un lieu assez symbolique parce que la basilique de Saint-Denis On le rappelle déjà, c'est là où reposent tous les rois de France, où repose notamment Charles Martel, qui a repoussé l'invasion arabo-musulmane en 732. C'est également en face de la mairie de Bali Bagayoko, voilà, qui est le maire qui se réclame de la Nouvelle France.
Oui, et maire de Saint-Denis, patrie des rois morts et du peuple vivant.
Exactement. Et en plus de ça, voilà, là où Jean-Luc Mélenchon s'est rendu pour faire son premier meeting de campagne. Donc c'était un lieu qui était hautement symbolique, et donc c'est un lieu qu'on a choisi, nous, pour aller déployer cette première banderole. Mais il y aura d'autres actions qui seront menées dans le cadre d'Objectif Immigration, qui auront lieu de différentes formes, de différentes manières, avec différentes personnes, pas seulement à Paris et dans sa petite couronne, mais bien sur l'ensemble du territoire, parce qu'Objectif Remigration, c'est une vraie volonté, c'est d'agir partout en France.
Alors, cette remigration, elle est en train d'inquiéter tous les gens de gauche qui considèrent que ça y est, les heures les plus sombres sont revenues. On en a déjà beaucoup parlé à l'antenne de Radio Courtoisie. Jean-Yves Le Gallou a écrit un remarquable livre sur la question. La remigration, c'est une politique qui est pratiquée depuis des siècles dans tous les pays, encore maintenant aux États-Unis par exemple. Donc ça sert à rien d'évoquer le bruit des bottes. En fait, il s'agit tout simplement d'une inversion des flux migratoires. Vous l'avez souligné, la France est soumise à une submersion migratoire, pour parler comme François Bayrou, ancien Premier ministre, qui est incapable pour le moment, la France, de gérer les effets de cet afflux massif de centaines de milliers d'immigrés chaque année qui submergent les logements sociaux, saturent les systèmes médicaux, font en sorte qu'il y a des prestations sociales pour des milliards d'euros qui sont distribuées pour des gens qui n'y ont jamais contribué. Donc le problème est évident. Cette remigration est pourtant considérée comme une espèce de crime contre la pensée, et même un mouvement identitaire a été dissous, et dans l'ordonnance de dissolution, on explique que la promotion de la remigration fait partie des griefs qui justifient qu'on puisse dissoudre un mouvement.
Bah oui, c'est assez scandaleux. Le mouvement en question, c'est Patria Albigès, donc qui était un mouvement identitaire local enraciné à Albi. Et donc on voit que oui, effectivement, dans le PV de dissolution, il y a la mention du fait qu'il y avait une promotion de la remigration. Mais quand on regarde ce que c'est que la remigration, c'est le renvoi de personnes étrangères sur leur sol d'origine. Ce qui est quelque chose qui devrait être garanti par l'État lui-même. C'est assez insupportable que ce soit à des groupes militants de faire le devoir de rappeler que la remigration, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place, alors que c'est une solution qui devrait être apportée précisément par l'État. Donc c'est absolument fumeux comme motif de dissolution. Et en plus de ça, la remigration, on en a parlé juste avant, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore tout à fait au clair sur ce terme. Au-delà de simplement appliquer la loi, il faut se rendre compte que la remigration aujourd'hui, c'est la seule manière aujourd'hui d'avoir un apaisement et de ne pas aller directement dans un conflit, sur notre propre sol. Quand on regarde ce qui se passe en Grande-Bretagne, où on a en fait des populations qui vivent face à face, qui sont extrêmement communautarisées, parce qu'en fait c'est humain, hein. On a des réflexes assez tribaux, on a des populations qui se ressemblent, qui se regroupent entre elles, et des populations de souches qui se ressemblent et qui restent également entre elles. Donc finalement, quand on met ces deux groupes de populations sur un même sol, et bien à la fin, il y a des affrontements, à la fin, il y a des morts, malheureusement. Et donc aujourd'hui, la remigration, c'est la seule solution pacifique pour arranger la situation. C'est la situation qu'il faut mettre en œuvre quand on est pour la paix, quand on est pour la préservation des droits de l'homme. Aujourd'hui, il faut mettre en avant cette solution, parce que c'est une solution qui est humaine, qui respecte les gens. On l'a vu aux États-Unis. Aux États-Unis, la remigration, elle a été mise en place depuis que Donald Trump a commencé son second mandat. Est-ce qu'il faut
La politique de remigration était déjà pratiquée sous Barack Obama.
Elle était déjà évidemment commencée, mais c'est-à-dire qu'on n'avait pas une inversion des flux migratoires. On expulsait aussi des gens, mais il y avait beaucoup plus d'entrées. Donald Trump, lui, il a vraiment cesser les entrées, notamment les entrées illégales, et en plus de ça, il a renvoyé un certain nombre de gens chez eux, et là où c'est intéressant, il y a assez peu de monde qui est au courant, sur le grand nombre de personnes qui ont été renvoyées chez eux par ICE, donc la police de l'immigration américaine, je crois qu'on est aux alentours de 2 millions de personnes en un an, qui est absolument énorme, on a quand même les 80% de ces personnes-là qui sont parties de leur propre chef, parce qu'en fait, on leur a proposer une politique incitative en leur proposant une somme d'argent pour les aider à se réinsérer dans leur pays d'origine. Et finalement, il y a énormément de personnes, de clandestins qui se sont dit « Tant qu'à me faire attraper par la police et me faire expulser en étant menotté, je préfère repartir de moi-même et empocher un petit peu d'argent pour m'aider à me réinsérer derrière. » Donc en fait, les résultats de cette police américaine au bout d'un an environ de la pratique de cette politique à une échelle un peu plus intensive, on a quand même dans l'extrême majorité des cas, un processus qui se passe bien, à part deux militants Antifa qui sont allés perturber et qui se sont fait malheureusement tuer par la police pendant des échauffourées. Mais à part ces deux personnes-là, on a plusieurs millions de personnes qui sont reparties chez elles dans la paix, dans la tranquillité. Et on voit aujourd'hui que c'est vraiment la seule solution qui s'impose comme la solution pacifiste, comme la solution humaine.
Alors, d'autant plus que LFI, pour ne pas les nommer, autrement dit le parti auquel appartient Bali Bagayoko, passe son temps à parler d'une nouvelle France, fait crier « on est chez nous » à ses troupes. Autrement dit, cette approche communautariste dont vous avez souligné les dangers est exactement celle du parti LFI qui ne fait rien pour apaiser la situation, mais qui au contraire est dans un discours de conquête. Revenons un peu sur les modalités de cette remigration. Il y a tous les immigrés clandestins, par principe ils sont illégaux, par principe ils sont criminels en étant arrivés en France, enfin il ne s'agit pas d'un crime en tant que tel, enfin, voilà, disons que ce sont des gens qui sont en dehors de la loi, le fait de les renvoyer ça paraît légitime. Il y a aussi tous ceux qui sont des binationaux qui commettent des crimes, ben, très bien, on a les déchoir de leur double nationalité et les renvoyer chez eux. Fondamentalement, ce que vous dites, c'est commençons ne serait-ce que par appliquer la loi et des centaines de milliers, voire des millions de personnes repartiront de France.
C'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut renvoyer des millions de personnes chez elles. Et effectivement, le but, c'est de commencer quelque part. Il faut avoir un début de quelque chose. C'est quelque chose qui va être sur le temps long. Ça ne sert à rien de faire un programme extrêmement massif sur un an. Il faut commencer aujourd'hui par poser les pierres, par commencer par des petites mesures qui vont petit à petit permettre déjà de fermer les frontières, parce que ça sert à rien d'appliquer la remigration si derrière on laisse les gens venir comme ils le veulent dans notre pays. Donc il faut renforcer les frontières, il faut interdire l'immigration légale et illégale. Aujourd'hui on ne peut plus se permettre pendant un moment d'avoir de l'immigration légale, et en tout cas en dehors de l'Europe c'est inimaginable. Et donc il faut fermer ses frontières et évidemment commencer par envoyer donc les clandestins, ceux qui n'ont même pas de papier, de titre de séjour, rien, et puis en fait au fur et à mesure refuser les titres de séjour, refuser le renouvellement des visas, déchoir de nationalité les binationaux qui commettent des crimes comme vous l'avez rappelé. Voilà, on a un certain nombre de choses qu'on peut mettre en place, mais la vraie priorité aujourd'hui c'est de commencer quelque part, parce que c'est voilà, en mettant cette grande machine en marche qu'on arrivera à un projet sur le temps long qui portera ses fruits.
Alors, j'ai le plaisir de recevoir Stanislas Thiel, Objectif Remigration, enfin qui est le porte-parole d'Objectif Remigration. Tout à l'heure, nous interrogerons Sébastien Jalamion sur la grande démission des policiers. Stanislas, dans votre Objectif Remigration, donc le nom de ce nouveau mouvement qui prône une solution politique, on sent que vous jouez une espèce de rôle d'avant-garde et que vous espérez que l'ensemble des partis politiques classiques, on en parlait tout à l'heure de la manière dont tout le monde dans le bloc centriste est en train de se rendre compte que l'immigration est un souci. C'est bizarre, il aura fallu 40 ans pour que leurs yeux se dessillent. Vous espérez donc que cette remigration devienne un élément du discours politique classique, un élément fondamental au moment des présidentielles de 2027. Quel est l'objectif d'Objectif Remigration?
Évidemment, l'objectif, c'est d'instaurer ce mot dans le vocabulaire assez commun du milieu politique français. Aujourd'hui, c'est un mot qui est, je dirais pas marginalisé, mais qui n'est pas assez employé. La plupart des gens savent ce que ça veut dire, mais c'est un mot qui est encore trop marginalisé. Donc nous, notre objectif, c'est voilà, de le promouvoir, de le mettre en avant, pour que, comme vous venez de le dire, pour que pendant les présidentielles de 2027, les politiciens aient à se positionner sur ce sujet. Sont-ils pour la remigration? Sont-ils contre? Et s'ils sont contre, pourquoi? Pour que les Français sachent pour qui ils vont voter. Voilà, moi je pense que c'est extrêmement important qu'on ait des groupes militants activistes comme le nôtre qui viennent mettre les politiciens face à la réalité de leurs actes pour avoir les décisions les plus claires possibles pour les Français en 2027, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus se permettre de faire l'autruche. On a énormément de partis partout en Europe qui parlent de remigration, qui prônent la remigration, qui parfois l'ont déjà mise en place, comme le Danemark. Et voilà, aujourd'hui, notre but, nous, c'est que ce thème-là soit abordé en France, parce qu'on reste un des derniers vieux pays européens qui fait une sorte de blocus face à toute la politique identitaire, notamment le grand remplacement, notamment la remigration, là où on a des partis aux quatre coins de l'Europe qui s'en sortent très bien électoralement et qui n'ont aucun problème à parler de ces sujets-là. Donc voilà, nous, c'est l'objectif, c'est que ce sujet-là, il soit connu par la population, évidemment, que tout le monde sache ce que c'est, et qu'ensuite les politiciens aient à se positionner dessus pour qu'on puisse voter en conséquence.
Vous avez raison, la France est à mi-chemin entre tous les partis européens qui reconnaissent qu'il y a un problème d'immigration, ou tous les pays comme l'Angleterre qui refusent de le regarder en face et qui ont réussi à déclencher des émeutes absolument terrifiantes. On voit ces organisations vraisemblablement protestantes paramilitaires et on voit bien toute la tradition, si j'ose dire, irlandaise en la matière, qui sont en train de patrouiller dans les rues et de mettre des maisons à sac, avec d'ailleurs une absence totale de contrôle policier, qui se disent qu'à l'idée d'aller affronter des indépendantistes irlandais, il vaut mieux aller se cacher. On sent que cette remigration est une solution, comme vous le dites tout à l'heure, humaine en fait, et que les accusations de déportation, pour le dire à la française, sont grotesques par rapport à tous les mécanismes déjà en place, et d'ailleurs validés par l'Union européenne, qui reconnaît l'existence des pays tiers, qui en augmente la liste, etc.
Évidemment, et ce que vous venez de rappeler avec l'Irlande, c'est quelque chose qu'il est essentiel de garder en tête. Les émeutes qu'on a vues en Angleterre il y a quelques semaines, mais également il y a quelques années, il y avait eu déjà des premiers épisodes d'émeutes, ce n'est que le début. On va avoir des affrontements qui seront de plus en plus violents, de plus en plus sanglants, si rien n'est fait pour endiguer cette politique migratoire absolument terrifiante et inefficace et qui détruit les identités des peuples. Donc aujourd'hui, voilà, on a l'Angleterre qui nous montre tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire en arriver à un point absolument critique où les populations s'affrontent entre elles sur le territoire et où la police n'est pas capable de faire régner l'ordre. Et derrière, on a voilà, la France, où on a Jordan Bardella qui participe à un meeting en Italie avec beaucoup de ses confrères européens qui font tous scander remigration à la foule, de la même foule, hein, du même meeting. Et puis on a Jordan Bardella qui arrive et qui, lui, ne veut pas se mouiller, n'en parle pas. Et on a vraiment l'impression en France d'être à la ramasse sur ce sujet-là. Donc moi, j'espère que le Rassemblement National va se positionner, parce qu'ils n'ont absolument rien à perdre, ils ont même tout à gagner. Quand on voit les scores que font Restore Britain, qui est donc à partie créé par Rupert Lowe il y a quelques mois, qui du coup, lui, est en faveur de la remigration, qui s'est créé en quelques mois et qui est devenu assez rapidement un parti extrêmement puissant en termes d'adhérents. On a énormément de gens qui ont adhéré à ce discours pro-remigration, et qui sont en fait en train de dépasser Reform par la droite. Donc voilà, quand on voit les scores électoraux qu'on peut capter, je ne comprends pas pourquoi il y a voilà, ce sujet-là, notamment au Rassemblement National, parce qu'on a eu en 2022 Éric Zemmour qui en a quand même parlé un certain nombre de fois, peut-être un peu trop brutalement, peut-être un peu trop, avec un peu trop d'invective. Aujourd'hui, il faut être capable d'avoir un parti qui est institutionnel comme le Rassemblement National, qui se positionne et qui dit, voilà, la remigration, c'est la solution pacifique, c'est la solution la plus humaine, et c'est celle-là que nous voulons mettre en place pour notre mandature.
Merci beaucoup Stanislas Thiel, et donc objectif remigration à commencer ces actions, et nous vous suivrons tout au long de cette année.
Merci beaucoup en tout cas.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Richard de Sèze.
Chers amis, voilà, il va bientôt être temps de nous quitter. Merci de nous avoir accompagnés toute cette matinée. Il nous reste encore 2 ou 3 minutes, le temps justement de demander à Franck comment faire pour soutenir Radio Courtoisie, admirable entreprise qui existe depuis bientôt 40 ans.
J'irai droit au but, soutenir.rc.fr pour faire un don en ligne. Et pourquoi faire un don en ligne? Parce que vous êtes les seuls financiers de Radio Courtoisie qui refusent toute ressource publicitaire, toute subvention, dans l'unique raison d'être indépendant et de ne pas subir de pressions extérieures qui pourraient influer notre discours comme ça se passe sur certains médias. Nous sommes libres, nous le revendiquons, mais nous avons besoin de vous. soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr. Merci.
Merci Franck, et avec tout ce que vous nous donnez, nous produisons des émissions chaque jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et notamment aujourd'hui.
Oui, dans quelques instants, Français mon beau souci de Marc Favre-Deschalin, 70 ans du concours de l'Eurovision de la chanson et de son multilinguisme au programme. À midi, le libre journal de la Défense de Philippe Nicolardo. Quel espoir pour la France avec Nicolas Mirkovic. 14h, le libre journal d'Yves-Marie Adeline, être doctorant iranien d'opposition dans l'université française. 17h, culture et politique de Richard Haddad et Pierre-Henri. 17h30, restons courtois avec Pierre-Alexandre Bouclet et son équipe pour le grand entretien et le rendez-vous de la réinformation. 19h30, le libre journal du lundi soir dirigé par François Costantini. Aujourd'hui, Iran, États-Unis, Israël, Liban, Hezbollah au programme. Et puis à 21h30, la soirée musicale d'Axel consacrée à l'abbaye de Solesmes.
Et bien voilà, et demain, nous ferons parler l'abbé Raffray et aussi Thibaut Gibelin. L'un nous parlera du pape et de l'immigration et l'autre de la Hongrie 2 mois après Orban.
Bonne journée à tous, à demain 7h.